Chapitre 4. Le restaurant des Glycines. Le restaurant des Glycines était, au moment où se déroule cette histoire, l'établissement le plus en vogue du bois de Boulogne. Ce jour-là, à l'heure du déjeuner, il faisait un temps magnifique. Profitant des premières caresses du printemps, une clientèle très sélecte avait envahi la plupart des tables qui se dressait dans le joli décor de verdure d'un beau jardin fleuri et ombragé. Un homme, déjà d'un certain âge, habillé avec une sobre élégance, au regard très vif sous ses lunettes à monture d'écaille, à la barbe et aux cheveux grisonnants, et qu'accompagnait une délicieuse jeune fille vêtue d'une toilette d'une fraîcheur exquise et d'un goût parfait, venait de s'installer sous un parasol. Leur entrée était passée inaperçue, même à Bellegarde et à Simone Desroches, qui, à une table voisine, venaient d'attaquer de savoureuses tartines de caviar. S'approchant des nouveaux arrivants, le maître d'hôtel tendit la carte à la jeune fille. Mais celle-ci, la remettant au vieux monsieur, fit d'une voix claire, harmonieuse, « Mais comment, papa, tu t'y entends beaucoup mieux que moi ?»« Entendu, ma petite Colette. » À ces mots, Jacques retourna légèrement la tête. Il ne put réprimer un léger mouvement de surprise. Il venait de reconnaître la charmante personne que la veille il avait rencontrée boulevard Sébastopol. Elle, de son côté, en apercevant le journaliste, esquissa un rapide sourire, puis baissant les yeux, tandis que son père commandait le menu, elle prit l'un des œillets semés sur la table, et l'approchant de son visage, elle parut prendre un vif plaisir à en respirer le parfum. Simone, toujours aux aguets, n'avait pas été sans saisir au passage cette petite scène rapide dont aucune nuance ne lui avait échappé. « Tu connais ces gens ?» demanda-t-elle tout bas à son ami. « Oh, pas du tout, non, » répliqua celui-ci en affectant un air d'indifférence. « Tiens, je croyais. » Simone se tut, rongeant son frein. Tandis qu'on apportait les quenelles de brochet au Bourgogne, Jacques ne put s'empêcher de jeter à la dérobée, à l'adresse de la jolie Parisienne, quelques furtifs regards que Simone ne manqua pas de surprendre. Alors, brusquement, les sourcils froncés, elle lança à Jacques d'un ton bref. « Alors, tu es toujours décidé à t'occuper de cette affaire du Louvre ?» Sans doute le vieux monsieur et sa fille avaient-ils surpris ce propos, car ils échangèrent un rapide coup d'œil qui, pour un observateur avisé, aurait pu paraître quelque peu étrange. Jacques, distrait, ne répondait toujours pas à la question qui venait de lui poser son ami. Celle-ci, de plus en plus nerveuse, s'écriait « Mais tu pourrais au moins m'écouter quand je te parle !» Jacques tressaillit, puis il fit un peu gêné. « Que me disais-tu donc ?»« Rien, » répliqua Simone, en prenant une attitude boudeuse. Le maître d'hôtel, avec des gestes onctueux, sacerdotaux, disposait sur les assiettes les appétissantes quenelles. Bellegarde tourna légèrement la tête vers la table voisine. Colette continuait à parler à son père sur un ton de confiance, idance. Bientôt, son regard, tout pétillant de malice, s'obliqua vers le journaliste qui accentua involontairement son sourire. Cette fois, c'en était trop. Jetant rageusement sa serviette sur la table, Simone martelait « J'en ai assez !» Jacques, déconcerté, tenta « Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a encore ?» D'une voix agressive, la jeune fille poursuivait Parce qu'une jeune personne mal élevée te regarde avec effronterie, tu te figures tout de suite. Oh, Simone, je t'en prie. Laisse-moi, j'ai vu ce que j'ai vu, n'est-ce pas? Jacques voulut la calmer, mais en vain. Elle se leva et s'empara de son sac, toute frémissante de colère contenue. Elle lança au journaliste, sur un ton qui n'admettait pas de réplique, Allez, ça va, adieu. Et elle s'en fut, après avoir adressé à Colette un regard foudroyant, et sans que Bellegarde, littéralement médusée, eût rien tenté pour la retenir. Au moment où il s'apprêtait à adresser des excuses à ses voisins, qui d'ailleurs n'avaient pas paru prêter aucune attention à cette algarade, un chasseur survenait annonçant « On demande Monsieur Claude Barjac au téléphone. » Le vieux monsieur se leva aussitôt et suivit le chasseur. Colette, demeurée seule, dirigea ses yeux vers le journaliste qui s'était remis à manger ses quenelles d'un air distrait et renfrogné. Sans doute subit-il l'attraction de cette âme qui déjà semblait se pencher vers la sienne. Car bientôt son regard se croisa avec celui de la jeune fille, et il y découvrit tout à coup une expression de douceur et de bienveillance qui était comme un acquiescement tacite aux excuses qu'il n'avait pas encore eu le temps de lui présenter. S'enhardissant, il allait lui parler, mais Monsieur Barjac revenait, et tout en s'asseyant en face de sa fille, il lui murmura d'un air énigmatique « C'est pour ce soir. » D'un rapide clignement d'œil, Colette lui désigna le reporter, qui, pour se donner une contenance, vidait d'un trait son verre de grave. Un sourire un peu narquois se dessina sur les lèvres de Monsieur Barjac, tandis que derrière ses lunettes, ses yeux avaient d'étranges pétillements. Et Jacques, comprenant, malgré tout le désir qu'il avait d'entamer la conversation avec sa jolie voisine, qu'il risquait de se rendre un tantinet ridicule en donnant suite à un incident qui semblait apaisé, prit dans son portefeuille un pneumatique et à l'aide de son stylo, il traça ces mots. Ma chère Simone, bien qu'il m'en coûte beaucoup de te faire de la peine, il m'est impossible de supporter plus longtemps tes scènes de jalousie aussi ridicules qu'injustifiées. Le maître d'hôtel s'approchait de lui la carte à la main. Et maintenant, demandait-il, qu'est-ce que monsieur choisit? J'ai fini, répliqua Bellegarde, donnez-moi l'addition. Mais il continua à écrire. Mieux vaut donc ne plus nous revoir, puisque nous ne nous comprenons pas et que nous ne pouvons plus nous entendre. Ne m'en veux pas d'une décision que toi seul as provoquée et rendue irrévocable. Adieu. Jacques. Le reporter cacheta son pneu et traça l'adresse. Un garçon apporta l'addition qu'il régla rapidement. Puis, tandis qu'on lui remettait son vestiaire, il glissa à l'oreille du maître d'hôtel. Pouvez-vous me dire qui sont ce monsieur et cette jeune fille qui déjeunent là-bas, à cette table? Le maître d'hôtel répondit. Oh, je l'ignore, monsieur, c'est la première fois qu'ils viennent aux Glycines. Jacques eut un dernier regard vers Colette, qui croquait de ses jolies dents de belles crevettes roses. Puis il s'éloigna. Colette le suivit des yeux, et elle soupira. Pauvre garçon, c'est dommage. Et s'adressant à son père, qui délaissait les nombreux et appétissants hors-d'œuvre étalés devant lui et griffonnait sur son calepin des mots illisibles, elle fit Tu dis que c'est pour ce soir ? Barjac brusquement releva la tête. « Je te raconterai cela tout à l'heure, » dit-il d'un air grave. Et d'un ton mystérieux, il ajouta, « Ici, les bosquets pourraient bien avoir des oreilles. » Chapitre 5, où l'on assiste à des faits troublants. Depuis le matin, le musée du Louvre, à l'exception de la salle des dieux barbares, dont les portes avaient été hermétiquement closes, avait été rouvert au public qui, naturellement, s'y était précipité, dans l'espoir, d'ailleurs vain, d'y apprendre ou d'y voir quelque chose. Le mystère, en effet, demeurait impénétrable. L'inspecteur Ménardier n'était cependant pas resté inactif. N'ayant découvert dans le vieux palais, à la suite d'un minutieux examen, aucune trace d'effraction, l'habile limier en était arrivé à la conclusion logique que le ou les assassins de Sabara devaient avoir un complice dans la place. À un moment, ses soupçons s'étaient même arrêtés sur Gautret. Or, non seulement les renseignements qu'il avait recueillis sur le brave gardien étaient excellents, mais il avait encore acquis la preuve que ce dernier, au cours de la nuit du crime, n'avait pas quitté son domicile. Donc, la piste Gautret était mauvaise, et il était inutile de s'y attarder. Persuadé qu'il avait à lutter contre un adversaire d'une rare audace et d'une habileté peu commune, Ménardier en était arrivé promptement à se convaincre que la première chose à faire était de rechercher d'abord comment il avait pu entrer au Louvre et en sortir avec une facilité qui tenait du prodige. Et il avait décidé de se livrer, la nuit prochaine, en compagnie de quelques agents triés sur le volet, à l'abri de tout œil inquisiteur ou de toute oreille indiscrète, à une exploration nocturne du musée. À cet effet, il avait prié M. Lavergne de lui confier les plans du palais, qu'il s'était mis à étudier avec la plus grande attention. Jacques Bellegarde, plus que jamais décidé à élucider ce terrible mystère, avait agi de son côté. Après être passé au Petit Parisien pour y prendre connaissance de son courrier, il s'était rendu au Louvre. Lorsqu'il y arriva, il était 3 heures de l'après-midi. Son premier soin fut de se rendre à la salle des dieux barbares, mais il constata aussitôt qu'il était impossible d'y pénétrer. 2 agents montaient en effet une garde vigilante devant la porte d'entrée, qu'obstruait une barrière de bois improvisée mais infranchissable. Sans tenter de flégir une consigne qu'il savait formelle, le jeune reporter rebroussa chemin, sans même prêter l'oreille aux propos plus ou moins abracadabrants qu'échangeaient les visiteurs. Et il résolut de se mettre tout de suite à la recherche du gardien Gautret, comptant bien que celui-ci donnerait une réponse favorable à la requête qu'il lui avait faite adresser par Marie-Jeanne. Et en s'engageant dans la galerie des Antiques, il se dirigeait d'un pas rapide vers la statue de la Vénus de Milo, qui détachait nettement sur le fond noir ses formes harmonieuses lorsqu'il s'arrêta, saisi de stupeur. Assise sur un pliant, un album sur ses genoux et un crayon à la main, la charmante Parisienne dont il avait fait la connaissance la veille, boulevard Sébastopol et qui, 2 heures auparavant, avait provoqué au restaurant des Glycines la colère de Simone Desroches, contemplait d'un air extasié la divine statue. Jacques eut une minute d'hésitation, puis s'avançant vers elle, et tout en la saluant avec beaucoup de déférence, il lui dit « Oh, décidément, mademoiselle, nous sommes destinés à nous rencontrer. Je ne me présente pas, puisque j'ai déjà l'honneur d'être connu de vous. » « En effet, monsieur, » répliquait Colette avec un gracieux sourire, « j'ai vu votre portrait en tête de l'un de vos livres. J'ajouterai que je lis tous vos articles et je ne vous cacherai pas qu'ils m'intéressent vivement. » « Vous êtes trop indulgente, mademoiselle, » reprenait le reporter. « Aussi, j'espère que vous voudrez bien accepter mes excuses au sujet du fâcheux incident de tout à l'heure. » Il s'arrêta, un peu embarrassé. Colette reprenait, toujours souriante et feignant un certain étonnement, Mais monsieur, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Jacques sentit qu'il valait mieux ne pas insister. Mais désireux de continuer la conversation, il fit, tout en jetant un regard rapide vers l'album que Colette tenait sur ses genoux. Vous avez beaucoup de talent, mademoiselle. La jeune fille éclata de rire, et tout en présentant au journaliste une page de son album que ne signalait encore que quelques vagues traits de crayon, elle dit « Vous voyez, je n'ai pas encore commencé. » Un peu gêné de sa bévue et s'emparant de la première idée qui lui traversait l'esprit, Jacques reprenait « Alors, mademoiselle, vous n'avez pas peur des fantômes ?» Gaiement, Colette répliquait « Je n'y crois guère. » « Pourtant, il paraît qu'il y en a un au Louvre. »« Oui, oui, je sais. » « Bien, figurez-vous que j'ai résolu de lui donner la chasse. » « Eh bien, bonne chasse, monsieur Bellegarde. » Et reprenant son crayon, la jolie Parisienne se remit à dessiner, signifiant ainsi à son interlocuteur que l'entretien à son gré avait suffisamment duré. Jacques était trop bien élevé pour s'imposer davantage, et après avoir salué la charmante artiste, il s'éloigna, non sans regret, et même un peu rêveur. Lorsqu'il eut disparu, un homme qui se dissimulait derrière une statue et semblait observer avec beaucoup d'attention les deux jeunes gens sortit de sa cachette. C'était Claude Barjac, s'approchant de sa fille, qui, en l'apercevant, avait légèrement rougi. Il lui demanda d'un air grave « Que te disait-il ?» Colette allait répondre « Mais... » Surgissant tout à coup d'une salle voisine, Gautret, l'air effaré, s'avançait vers Barjac et, tout en enlevant sa casquette, il fit « Monsieur, je voudrais vous dire un mot. » D'un geste bref, le père de Colette l'invitait à parler. Le gardien, sur lequel son interlocuteur semblait exercer un singulier ascendant, reprit aussitôt « Ce journaliste... qui parlait à l'instant à votre demoiselle. Oui, eh bien, il m'a fait demander l'autorisation de l'introduire cette nuit dans la salle des dieux barbares. Et après, en ce moment, il doit courir après moi pour chercher ma réponse. Eh bien, ordonnait Barjac sur un ton impératif, rejoins-le vite et dis-lui que c'est entendu. Mais, monsieur... balbutia le gardien littéralement ahuri. « Fais ce que je te dis, » imposait Barjac. « Tu n'as pas besoin de comprendre. » Gautret s'empressa de déguerpir. Alors Colette, se levant et regardant son père avec émotion, « Père, fit-elle, je ne voudrais pas qu'il arrive un malheur à M. Bellegarde. Tu t'intéresses donc à lui ?» questionnait Barjac, fronçant les sourcils. Visiblement troublée, la jeune fille répondit « J'ai lu ses articles, ses livres, et je lui trouve beaucoup de talent. » Barjac enveloppa de son regard profond sa fille, qui ajouta « Je ne te cacherai pas qu'il m'est très sympathique. » Colette, timidement, baissa les yeux, tandis que sur les lèvres de Barjac errait un étrange sourire. Pendant ce temps, Gautret avait rejoint Jacques Bellegarde dans le vestiaire. Alors, se penchant vers lui, il lui glissa quelques mots à l'oreille. Le jeune reporter parut très satisfait, et tout en lui serrant la main, il fit également à voix basse « Alors entendu ?»« Entendu ?» ponctua Gautret d'un air sombre. Chapitre 6 Où grandit le mystère. Le même soir, vers 11 heures, par une nuit que de gros nuages bas immobiles rendaient particulièrement profonde, une ombre venant du carrousel traversait la grande cour du Louvre, dont les deux ailes monumentales dressaient dans les ténèbres leur imposante silhouette. Bien que la vaste esplanade parût absolument déserte, L'ombre, celle d'un homme vêtu d'un pardessus sombre au col relevé et coiffé d'un chapeau de feutre noir enfoncé jusqu'aux oreilles, l'ombre évitait avec soin les traînées de lumière que projetaient sur le sol les becs de gaz encore allumés. Bientôt, après s'être arrêté un instant sur place et avoir constaté, à travers le silence nocturne qui n'avait pas été suivi, il s'approcha, pas de loup, de l'aile droite et rejoignit, sous la galerie, un personnage qui, caché derrière un pilastre depuis un certain temps déjà, semblait guetter sa venue. Sans prononcer une parole, celui-ci adressa de la main un signe à l'individu en par-dessus. Puis, s'emparant d'un trousseau de clés, il ouvrit avec précaution une petite porte et pénétra avec son compagnon dans le vestibule qui précédait la galerie des antiques. Tous deux, étouffant soigneusement le bruit de leurs pas, pénétrèrent dans la galerie qu'ils longèrent dans toute son étendue. Après avoir écarté la barrière en bois qui, depuis la veille, empêchait le public de pénétrer chez les dieux barbares, ils se faufilèrent dans cette salle où régnait une obscurité à peu près complète. L'homme au trousseau de clés, qui semblait gêné, embarrassé, regarda autour de lui d'un air inquiet et il murmura: « Monsieur Bellegarde, mon service m'appelle ailleurs. Sans ça, je serais bien resté avec vous. » « Oh, c'est inutile, mon cher Gautret, répliqua le journaliste, j'en ai vu bien d'autres. » Et, tirant un Browning de la poche de son manteau, il ajouta: « Je suis sur mes gardes. Fantôme ou bandit, je ne crains personne. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il ait le cynique toupet de revenir cette nuit au Louvre. Enfin, quoi qu'il arrive, je suis là pour le recevoir. » Et tout en serrant la main au gardien, il ajouta: « Croyez que je n'oublierai pas le service que vous me rendez, car j'ai la conviction que grâce à vous, je vais faire ici de précieuses trouvailles qui me permettront peut-être de donner le pion à ce cher monsieur Ménardier. » Gautret hocha la tête d'un air sceptique et il s'en fut, laissant seul le hardi reporter. Un rayon de lune, s'évadant des nuages, filtra à travers l'une des hautes et larges fenêtres. « Un peu de lumière, » se dit Bellegarde, « est-ce un symbole ?» Il regarda autour de lui, distinguant confusément les silhouettes des dieux qui, figés dans leur immobilité de pierre, de marbre et de bronze, ajoutaient encore à l'atmosphère mystérieuse qui l'environnait. Après avoir accordé un rapide coup d'œil à une immense vasque en porphyre qui, sur un piédestal massif, se dressait presque au milieu de la salle, Bellegarde s'approcha de la statue de Belphégor qui gisait toujours sur les dalles au pied de son socle, directement éclairée par le miroitement de la lune, et il se mit à l'examiner avec soin. « Quel malheur, murmurait-il, bon vieux Belphégor, toi qui écris si bien, que tu ne puisses pas parler, car tu dois en savoir long, très long même, sur l'affaire qui nous occupe. » Et se rappelant tout à coup l'histoire, ou déjà ancienne, mais rigoureusement authentique, de cette statue moyenâgeuse de la cathédrale de Dole en Bretagne, à l'intérieur de laquelle un jour, par le plus grand des hasards, un sacristain avait découvert une cachette contenant plusieurs centaines de pièces d'or, il se prit à penser: « Est-ce que par hasard tu ne renfermerais pas dans ton enveloppe de pierre un trésor ou simplement un secret que quelqu'un aurait intérêt à s'approprier ?» Et après tout, bon, cela n'aurait rien d'extraordinaire. Cherchons donc à voir ce que cette divinité peut bien avoir dans le ventre ou dans la tête. Et prenant dans la poche de son pardessus une petite lampe électrique à puissant foyer, il en promena lentement la lumière tout le long de la statue. Tout à coup, d'abord confuse mais se précisant peu à peu, en son grand suaire sombre et sous son capuchon en forme de masque, à travers lequel brillaient deux yeux aux lueurs phosphorescentes, une ombre surgit des ténèbres. C'était le fantôme du Louvre tel que Pierre Grantrel avait fidèlement décrit à ses chefs. Serrant la poignée d'un casse-tête dans sa main droite gantée de noir, silencieusement, comme si ses pieds n'eussent pas touché le sol, il s'avançait vers Jacques, qui, absorbé dans son examen, ne pouvait ni le voir ni l'entendre. S'approchant du journaliste presque à le frôler, le fantôme levait le bras et s'apprêtait à faire retomber sur la nuque de Bellegarde l'arme terrible qu'il brandissait, lorsqu'un homme, qui en un bond prodigieux venait de s'élancer de la vase qu'en Porphyre, le saisit par le poignet tout en criant d'une voix vibrante « Bandit, je te tiens !» Jacques se redressa en un grand sursaut. Un cri de stupeur jaillit de sa poitrine. À la clarté lunaire, il venait d'apercevoir à deux pas de lui Claude Barjac, le père de Colette, aux prises avec le fantôme du Louvre. Mais d'un mouvement de félin, celui-ci échappait à l'étreinte de Barjac, et prompt comme l'éclair, il se précipitait vers la baie qui donne sur l'escalier de la Victoire de Samothrace. Jacques, qui instinctivement avait saisi son Browning, le déchargeait vers le fantôme qui avait déjà disparu dans la nuit. « Vite, à sa poursuite !» lançait Berjac, qui avait retrouvé tout l'élan, la force et l'audace d'un homme de 40 ans. Tous deux s'élancèrent sur les traces du fugitif. Bellegarde, le premier, l'aperçut qui escaladait 4 à 4 les degrés de l'escalier. Très sportif, très entraîné, le reporter s'élança, et en un effort de jarret, digne du vainqueur de la course du marathon, il rejoignit sur le palier. Mais d'un coup de casse-tête qui heureusement porta à faux et ne fit que l'étourdir légèrement, le fantôme l'étendit à terre. Au même instant, des lumières apparaissaient au sommet de l'escalier. C'était Ménardier et ses hommes qui, en train d'explorer la galerie d'Apollon, avaient perçu le bruit des détonations et accouraient avec des falots. Désignant le fantôme qui venait de frapper le journaliste et se silhouettait au pied de la célèbre statue aux ailes déployées, Claude Barjac, tout en montant les marches, criait « Barrez-lui la route, nous le tenons !» Mais d'un bond prodigieux inattendu, le fantôme se jeta hors du rayonnement des lanternes et disparut comme par enchantement dans un vaste trou d'ombre qui se trouvait à sa gauche. Bellegarde s'était déjà relevé. Promenant autour de lui le faisceau lumineux de sa lampe, il allait chercher à se rendre compte comment et par où le fantôme avait bien pu lui échapper, lorsque l'inspecteur Ménardier, qui avait atteint le pilier avec ses hommes, s'approcha de lui et l'interpellant d'un ton courroucé. « Monsieur Bellegarde, vous ici, mais votre présence est suspecte, et je me vois obligé de vous arrêter. » « Un instant !» intervenait Barjac, qui avait rejoint le groupe. « Je vous prie de ne pas arrêter cet homme. J'étais caché dans la salle des dieux barbares, et je puis vous affirmer que sans moi, ce malheureux subissait le sort du gardien Sabarat. » À la vue de ce nouveau personnage, qu'il ne connaissait pas, l'inspecteur Ménardier interrogeait menaçant. « D'abord, qui êtes-vous ? » D'un geste brusque, Barjac, arrachant sa barbe postiche et la perruque dont il était affublé, laissa apparaître le visage d'un homme de 45 ans environ, aux traits énergiques, frappés en médaille, au menton volontaire et aux yeux étincelants d'audace. Et quelque peu gouailleur, il s'écria « Mon cher Ménardier, je crois que nous avons manqué notre gibier. » « Chantecoq ! » s'écriait l'inspecteur sidéré, tandis que Bellegarde, non moins stupéfait, martelait « Chantecoq ? Le grand Chantecoq ? Le roi des détectives ?» Chapitre 7 Le roi des détectives. Cet étrange personnage, qui venait de jouer un rôle si inattendu dans le drame du Louvre, n'était autre qu'un ancien agent de la Sûreté Générale qui, avant la guerre, avait acquis, grâce à ses nombreux et retentissants exploits, une réelle célébrité. Mobilisé en 1914 comme officier de réserve, Chantecoq, après s'être vaillamment battu et avoir mérité la Légion d'honneur et la Croix de guerre, avait été mis en sursis d'appel et s'était livré à une chasse aux espions qui avait achevé d'en faire un véritable héros populaire. Après l'armistice, il avait donné sa démission et s'était établi détective privé. Il avait pris pour secrétaire, ou plus exactement pour collaboratrice, sa fille, la charmante Colette, qui s'était vite passionnée pour une profession dont son père avait su faire mieux qu'un métier, c'est-à-dire un art. Sa réputation, solidement établie et basée à la fois sur sa valeur professionnelle et son grand caractère, lui avait valu une clientèle d'élite qu'il servait avec autant de succès que d'honnêteté, d'intelligence et de zèle. Comment se trouvait-il mêlé à cette histoire? En deux mots, voici. Chantecoq avait été officieusement chargé par le gouvernement italien de rechercher un bandit qui, à la suite d'un vol important commis dans un musée de Florence, s'était caché à Paris. Supposant que ce gredin pouvait être le pseudo fantôme du Louvre, le grand détective s'était aussitôt adressé au gardien Pierre Gautret, qui avait servi autrefois sous ses ordres pendant la guerre et auquel il avait sauvé la vie. Gautret, auquel son ancien chef inspirait une admiration et un dévouement sans bornes, s'était d'autant plus empressé d'entrer dans ses vues qui se sentait vaguement soupçonné par l'inspecteur Ménardier. Selon lui, Chantecoq, mieux que personne, ne manquerait pas de lucider promptement cette angoissante énigme. Malheureusement, les circonstances, ainsi qu'on vient de le constater, n'avaient pas donné raison à l'excellent gardien. Et Chantecoq, lui aussi, était obligé de s'avouer qu'il se trouvait en face du problème le plus ardu et le plus troublant qu'il eut à résoudre. Mais ces difficultés n'étaient nullement faites pour décourager celui que Bellegarde avait salué du nom de roi des détectives. Dès le lendemain matin, il s'était enfermé dans son cabinet de travail, situé au rez-de-chaussée du petit hôtel particulier où il demeurait, au Terne, avenue de Verzy. C'était une vaste pièce meublée avec goût, ornée de jolis bibelots, et au fond de laquelle se dressait une grande bibliothèque garnie de livres aux riches reliures. On eût dit beaucoup plus le studio d'un artiste que le bureau d'un policier. Assis devant sa table, après avoir récapitulé les événements de la veille, il s'efforçait d'en tirer les déductions capables de lui faire entrevoir, ne fût-ce qu'une toute petite lueur, à travers les ténèbres dans lesquelles il se débattait, lorsqu'une porte s'ouvrit doucement, livrant passage à Colette, qui s'arrêta pendant un instant pour contempler son père avec une expression de souriante tendresse. Chantecoq, absorbé dans ses réflexions, n'avait pas remarqué sa présence. S'avançant à pas de loup, Colette, en un geste plein d'une grâce exquise, se pencha vers son père et l'entoura de ses bras. « Oh, bonjour, chérie !» fit le limier en lui rendant son baiser. « Rien de nouveau depuis hier soir ?» interrogeait Colette en s'asseyant sur le siège en face de son père. « Non, non, rien. Oh, Ménardier a dû être furieux lorsqu'il vous a vus tous les deux, Monsieur Bellegarde et toi. Oh, et comment ? Il voulait maintenir Bellegarde en état d'arrestation. Allons donc. Oh, j'en ai eu même assez de peine à le convaincre qu'en agissant ainsi, il se couvrirait de ridicule. Mais laissons Ménardier tranquille. Nous avons à nous entretenir de choses beaucoup plus intéressantes. Le fantôme ? Oui, le fantôme. Je crois, soulignait Colette, que nous avons affaire à un rude adversaire. Chantecoq garda le silence. « Et toi, papa, qu'est-ce que tu en penses ?» interrogea la jeune fille. Je cherche, répliqua le détective, dont le front assombri reflétait le doute et l'anxiété qui étaient en lui. Brusquement, il se leva et se mit à arpenter lentement son cabinet. Puis, au bout d'un instant, il s'écria « Mais pourquoi ce gredin s'est-il attaqué à une statue aussi encombrante et aussi difficile à emporter ? Pourquoi n'a-t-il pas choisi plutôt un tableau, un objet précieux, un émail, une miniature, un ivoire, un joyau ? Et puis par où est-il entré, mais par où s'est-il enfui ? » Tout en parlant, Chantecoq s'était rapproché de sa fille, qui, le coude appuyé sur la table, semblait absorbée dans ses pensées. Mais tout en lui posant la main sur l'épaule, il fit « Eh bien, petite !» Colette tressaillit, puis s'efforçant aussitôt de se ressaisir, elle répliqua un peu gênée « Moi aussi, je cherche. » Chantecoq, tout en lui caressant affectueusement la joue, reprenait « Oui, je crois plutôt que tu penses à un beau jeune homme. »« Père, » protesta la jeune fille en sourissant, en rougissant. « Rassure-toi, » scandait le détective avec une solennité comique. « Oh, tu ne tarderas pas à le voir apparaître. » Et prenant un pneumatique déposé sur son bureau, il le tendit à sa fille en disant « Lis ce message que je viens de recevoir. » Il était ainsi rédigé. 31 avenue d'Antin, téléphone Élysée 8629. Cher Monsieur Chantecoq, un empêchement imprévu m'oblige à vous prier de bien vouloir remettre à cet après-midi 15h le rendez-vous que nous avons pris la nuit dernière au Louvre. Avec tous mes meilleurs sentiments, Jacques Bellegarde. J'ai cherché à vous joindre au téléphone, mais impossible d'obtenir la communication. Voilà pourquoi je vous envoie ce bleu. J'espère qu'il vous parviendra à temps. Décidément, ponctuait Chantecoq, le service du téléphone va de plus en plus mal. Je vais adresser une réclamation.
N'en fais rien, père, demandait Colette. C'est moi qui ai décroché le récepteur.
Pourquoi ?
Tu étais rentré si tard et ce matin tu dormais si bien que je n'ai pas voulu qu'on te dérangeât.
Voyez-vous ça ! S'exclamait le détective avec un bon sourire. Eh bien, j'ai profité de ce que la communication était rétablie pour lui demander d'être ici à 3h. Es-tu contente ? D'un geste brusque et sans doute volontaire, Colette fit tomber à terre une pile de dossiers rangés sur la table. Vite, elle se baissa pour ramasser les feuilles éparses sur le tapis, dissimulant ainsi à son père le trouble qui s'était emparé d'elle. Chantecoq, dont le sourire s'était accentué en une expression de profonde tendresse, la regardait. Colette se releva. Sa moisson de documents était terminée. Et, tout en replaçant les papiers dans leur chemise, elle dit d'une voix dans laquelle tremblait le discret frémissement d'une vague espérance « Papa, si nous travaillons ?» Chapitre 8. Le bossu mystérieux. À la même heure, avenue d'Antin, le long du trottoir qui s'étendait juste en face du rez-de-chaussée qu'habitait Jacques Bellegarde, un individu s'efforçait depuis un bon moment déjà, et d'ailleurs sans y parvenir, de regonfler l'un des pneus arrière d'une voiturette dont la carrosserie en assez mauvais état révélait à la fois un long usage et un insuffisant entretien. Ce personnage était d'aspect plutôt bizarre, vêtu d'un complet de couleur sombre et qui n'avait rien de sportif. Il était affligé d'une gibbosité qui faisait de son dos un véritable hémisphère. Son visage aux traits durs et saillants, aux yeux à fleur de tête, s'encadrait de deux cours favoris parsemés de quelques fils d'argent. Les énormes pieds qui terminaient les jambes en cagneuses
et les mains non moins gigantesques qui s'ajoutaient à ses bras d'une longueur démesurée, achevaient d'en faire une sorte de personnage légendaire qu'on eût dit échappé d'un conte d'Hoffmann ou d'un récit d'Edgar Poe. En observant ce bossu avec un peu d'attention, il eût été facile de constater que, par instant, tout en affectant de s'acharner à sa besogne, il dirigeait son regard vers l'une des fenêtres du journaliste, dont les rideaux transparents laissaient apercevoir les silhouettes d'un homme et d'une femme qui paraissaient discuter avec animation et n'étaient autres que celles de Jacques Bellegarde et de la demoiselle de compagnie de Simone Desroches. La nuit précédente, en rentrant chez lui, le reporter avait trouvé un mot d'Elsa Bergen, lui faisant savoir qu'elle passerait avenue d'Antin dans la matinée pour une affaire très urgente. Soupçonnant que de graves événements avaient dû se dérouler, Jacques n'avait pas cru devoir y conduire la visiteuse. Voilà pourquoi il avait prié Shancock de remettre à l'après-midi le rendez-vous qu'il avait pris avec lui pour la matinée. Les prévisions de Bellegarde étaient exactes. Au dire d'Elsa Bergen, le billet dans lequel Jacques signifiait à son ami que tout était désormais fini avait plongé celle-ci dans un violent désespoir. Se départant de sa froideur habituelle, la Scandinave déclarait avec émoi : Tout à l'heure, quand je l'ai quittée, elle reposait encore. Alors j'en ai profité pour accourir chez vous, après avoir recommandé à sa femme de chambre de ne pas la perdre de vue une seconde. « Monsieur Jacques, il faut absolument que vous reveniez près d'elle. »« Mademoiselle, reprenait le reporter avec une expression de sincérité absolue, je ne demandais qu'à l'aimer. Mieux que personne, vous savez à quel point elle s'est montrée à mon égard tyrannique, insupportable. » Mais réfléchissez, monsieur Jacques, aux responsabilités que vous allez prendre. Le médecin Simone m'a confié qu'elle souffrait d'une insuffisance mitrale et qu'un choc violent et prolongé risquait de l'emporter. Je ne vous en dis pas davantage. Allez, je laisse à votre conscience le soin de décider. Bellegarde se taisait. Les dernières paroles d'Elsa Bergen l'avaient probablement impressionné. Certes, il lui était extrêmement pénible de reprendre contact avec une femme qu'il n'aimait plus et dont l'existence ne pouvait que peser lourdement sur la sienne. Mais avait-il le droit de lui infliger les affres d'une si cruelle douleur et peut-être de se séparer d'elle que pour la jeter dans les bras de la mort ? Très pâle, mais d'une voix assurée, il fit « Oh, bien puisqu'il en est ainsi, mademoiselle, je passerai tout à l'heure chez Simone. »« Vous la sauvez, » répliqua la Scandinave en lui tendant la main. Et elle ajouta « Je cours vite lui annoncer cette heureuse nouvelle. » Bellegarde l'accompagna jusqu'à la porte. Puis il revint dans son cabinet de travail. Une grande préoccupation se lisait sur son visage. Simone, n'était-ce pas sa vie intime gâchée, son avenir compromis, son talent en péril, son âme à la dérive? N'était-elle pas l'adversaire de son repos moral, une entrave permanente à son travail et à l'ascension de son talent, dont elle risquait de causer la ruine? Et voilà qu'ajoutant encore à ses transes, prélude à l'enlisement fatal qu'il prévoyait, surgissait à travers les brumes de mauvais augure qui commençaient à obscurcir sa route, la gracieuse et rayonnante image de cette jeune fille que par trois fois le hasard avait mise sur sa route. Et quel contraste avec Simone! Quelle âme simple et claire, on devinait sous ce sourire, si gracieusement, si gaiement épanouie, à travers ce regard limpide comme le miroir d'un lac aux eaux transparentes, et sur lequel se reflète à la fois l'azur d'un ciel sans nuages et l'or d'un splendide soleil. que l'amour d'un être pareil devait être chose sublime et divine. Quelle compagne elle serait un jour pour celui qui saurait se faire aimer d'elle. Mais on frappait à sa porte. « Entrez !» fit-il en cherchant à se ressaisir. C'était Marie-Jeanne. Sa bonne grosse figure avait perdu son habituelle expression de franche gaieté, et ses yeux bouffis et rouges attestaient qu'il n'y avait pas longtemps qu'elle avait cessé de pleurer. « Monsieur Jacques, » déclara-t-elle, « excusez-moi si je suis en retard, mais ça va pas à la maison. » « Qu'y a-t-il donc ?» lança Bellegarde d'un ton un peu distrait. « Mon mari a été appelé ce matin de la première heure chez monsieur le conservateur du Louvre. Il a dû lui avouer que c'était lui qui vous avait introduit ainsi que monsieur Chantecoq dans la salle des dieux barbares. « Et alors ?» interrogeait le jeune reporter. « Il est révoqué !» s'écria la brave femme en étouffant un sanglot. « Ah, oh, ma bonne Marie-Jeanne !» affirmait Jacques. « Je suis désolé. Mais ne vous tourmentez pas ainsi. Je vais immédiatement recommander Gautret à la direction de mon journal, et je suis sûr qu'on lui trouvera au petit Parisien une situation au moins équivalente à celle dont je lui ai fait perdre.
« Monsieur Jacques, je savais bien que nous pouvions compter sur vous, » répliquait la femme de ménage, en dirigeant vers le journaliste un regard tout plein de reconnaissance. « Dites à votre mari de venir me voir ce soir, vers 18h, au petit Parisien. »«
Je lui ferai la commission, monsieur Jacques, et encore merci. »
Bellegarde quitta son bureau. Il prit dans l'antichambre son chapeau et son pardessus accrochés à un porte-manteau. Puis il gagna le dehors. Le bossu mystérieux avait enfin fini de gonfler son pneu. Maintenant, il examinait son moteur qui, d'ailleurs, ronflait avec une régularité parfaite. À la vue du journaliste, il referma vivement son capot et s'installa sur son siège avec une souplesse de mouvement que l'on n'eût pas soupçonné chez un être aussi difforme. Jacques, qui s'était arrêté sur le trottoir, héla un taxi qui passait à vide et y sauta lestement tout en lançant au chauffeur l'adresse de Cibonne. Alors le bossu mit en marche sa voiturette et s'élança sur les traces du taxi. Marie-Jeanne, qui pour donner de l'air avait ouvert la fenêtre, aperçut son dos voûté et penché au-dessus du volant.
« Un bosco !» fit-elle. « Oh, quel malheur que je puisse pas caresser sa bosse. On prétend que ça porte bonheur. »
Et tout en secouant la tête, elle ajouta.
« En attendant, moi j'ai grand peur que tout cela ne finisse très mal pour tout le monde. »